Bonjour à tous. Je dois dire que ce matin, l'image est particulièrement nette. Vous avez remarqué que la résolution est extraordinaire, ça change, hein, de se voir par écran interposé. Et c'est un privilège de pouvoir revoir vos têtes, même si elles sont masquées. Puis je me rends aussi compte qu'au fil des dimanches, en tout cas, je me demande s'il ne faudra pas réapprendre à chanter. Je ne sais pas si vous le ressentez, à moins que vous ne chantiez durant la semaine. Mais moi, je remarque que je chante beaucoup moins et que ma voix, elle s'épuise beaucoup plus facilement. On a commencé dimanche dernier une série sur les moyens de grâce. Et nous sommes partis pour quelques dimanches et nous avons parlé de ce premier moyen de la grâce qui est la parole de Dieu. Et ce matin, on va prendre quelques instants pour parler de manière très pratique de ce qu'est la lecture de la Bible au quotidien. Mais avant, j'aimerais juste vous rappeler deux, trois choses par rapport à ce que nous avons vu. Qu'est-ce que c'est qu'un moyen de grâce ? Les moyens de grâce, ce sont toutes les activités que Dieu utilise pour nous communiquer dans la communion de l'Église, pour nous donner davantage de grâce. Alors, qu'est-ce que c'est une grâce ? Une grâce, c'est un cadeau. C'est quelque chose que Dieu nous donne sans contrepartie. La grâce, ça ne se mérite pas. La grâce, nous ne pouvons pas l'acheter. Mais la grâce, c'est ce qui découle de la personne de Dieu parce que Dieu est bon. Et quand vous côtoyez une personne qui est bonne, elle va d'une manière ou d'une autre vous faire ressentir, vous faire partager cette bonté qu'elle veut vous témoigner. Et Dieu est fondamentalement bon dans son être, donc il a ce désir de nous témoigner sa bonté. Et il y a un certain nombre de moyens par lesquels Dieu, notamment en Église, dans la communion de l'Église, où Dieu nous témoigne davantage de grâce. Et appliqué à la lecture de la parole de Dieu, qui est un de ces moyens de grâce, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous le faisons avec foi et obéissance, ce sont des conditions, lorsque nous lisons la Bible avec foi et obéissance, alors le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le cœur du croyant, au moment même où ses actions sont accomplies. Quand je lis la Bible, avec foi et obéissance, avec foi, c'est parce que je crois qu'elle est la parole de Dieu. Avec obéissance, parce que je la reçois comme le message de Dieu aux hommes. Comment est-ce que Dieu parle ? Au travers de sa parole. Quand je reçois cette parole, quand je la lis avec foi et obéissance, que se passe-t-il ? Dieu, par son esprit, vient parler à mon cœur. Ce n'est pas un acte magique que de lire la Bible. Ce n'est pas la Bible en elle-même qui contiendrait une puissance extraordinaire. Comme un livre de magie, il suffit de dire la formule pour que les choses arrivent. Non. Dieu parle au travers de sa parole parce que c'est par son esprit qu'il le fait. Et ce matin, je vous propose vraiment une réflexion tout à fait pratique sur cette lecture de la Bible au quotidien. Mais comment lire la Bible tous les jours ? Souvenez-vous de ce texte que nous avons lu aussi, toute la Bible, toute la parole de Dieu, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle nous vient de Dieu. Elle est utile pour enseigner, elle est utile pour réfuter, elle est utile pour redresser, elle est utile pour apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. C'est un bon code code de la vie, la parole de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Il y a là un trésor de vie, une recette, une clé pour la vie. Vivre de manière juste, vivre d'une manière qui glorifie Dieu, eh bien cela passe par l'Écriture. Comment vivre une vie juste si nous ne lisons pas l'Écriture ? Comment apprendre si nous n'ouvrons jamais la Bible ? Comment être repris par Dieu si nous ne le rencontrons pas au travers de l'Écriture ? Alors ce matin, la question qui se pose à nous, c'est justement lecture de la Bible. Comment est-ce que je lis la Bible tous les jours ? J'aimerais vous parler de Jean-Louis, j'aimerais vous parler de Sophie, j'aimerais vous parler de Léonie, mais aussi de Gérard. Jean-Louis travaille à la chaîne dans une usine. Et Jean-Louis fait les 3-8. C'est-à-dire que quand il est du matin, il embraye à 6 heures. Et comme il a 45 minutes du trajet, ça veut dire que Jean-Louis se lève tous les matins à 4h30 pour aller travailler. Et quand il est d'après-midi, il part de chez lui à 12 heures. Et il rentre le soir à 21 heures. Et quand il est de nuit, il part à 19 heures et il rentre chez lui à 7 heures. Ce qui est difficile dans la vie de Jean-Louis, c'est d'avoir une habitude quotidienne pour lire de la Bible dans un agenda qui change de semaine en semaine. Comment avoir un temps de lecture biblique quotidienne dans ces conditions ? J'aimerais aussi vous dire un mot de Sophie. Sophie est mère de famille. Elle a 2 enfants en bas âge, Lucie qui a 2 ans et Théo qui a 3 mois. Et pour Sophie, on ne sait pas vraiment quand est-ce que sa journée commence et quand elle se termine. Ce que l'on peut dire, c'est que Lucie est réveillée tous les matins à 6h45, que ce soit en semaine ou le week-end, et qu'il faut, le soir, pour les coucher, il faut au moins une heure pour essayer de faire entrer les enfants dans le sommeil. C'est-à-dire qu'entre 6h45 et 20h, Sophie, elle est sur le pont. Et c'est sans parler de Théo, qui a 3 mois, qui lui se réveille encore 4 fois par nuit, toutes les 2 heures. Et curieusement, Quentin, qui est le mari de Sophie, oublie aussi qu'il est un père, surtout entre 22h du soir et 7h du matin. Et quand Sophie a un temps de pause durant sa journée, c'est-à-dire quand les enfants font la sieste, ou si Lucie est à la crèche, Sophie s'effondre sur son canapé, ou alors elle rattrape tout ce qui est en retard, c'est-à-dire le ménage, les papiers, le linge, les courses, etc. Et Sophie appréhende la reprise de son travail dans 6 semaines. Comment avoir un temps de lecture biblique quotidien quand on est maman de famille dans ces conditions? J'aimerais aussi vous parler de Léonie. Léonie, elle est célibataire, elle a 40 ans, elle vit seule, elle est ingénieure. Et elle court non-stop de 6h à 23h. En fait, parce qu'elle aime ça. Et qu'elle a une pêche extraordinaire. Léonie ne peut pas s'asseoir. C'est pas dans ses gènes. Elle est survitaminée dans sa manière de vivre. Elle a toujours besoin de bouger. Elle a toujours besoin de faire quelque chose. Elle a horreur de se poser dans un fauteuil. Alors, je peux imaginer que quand vous entendez le mode de vie de Léonie, certains d'entre nous, je pense, ça les épuise d'office. D'autres, ça les fait frétiller. Et d'ailleurs, quand Sophie, maman de famille, vient discuter à la fin du culte avec Léonie, Sophie, elle est juste écrasée. Et si Léonie, quand même, se pose quelques instants dans sa journée, c'est juste pour aller sur les réseaux sociaux avec son smartphone. Comment avoir un temps de lecture biblique quotidien quand on fonctionne comme ça ? J'aimerais aussi vous parler, pour terminer, de Gérard. Gérard, il a 50 ans et il est veuf. Gérard, il n'aime pas lire. En fait, il a du mal à se concentrer quand il lit. C'est probable que Gérard soit dyslexique depuis son enfance. Mais voilà, à l'époque, les professeurs des écoles n'étaient pas formés pour accompagner de tels troubles. Et c'est probablement pour cette raison-là que Gérard se faisait gronder quand il lisait mal à l'école et qu'il était traité de feignant par son instituteur. Et cette histoire, ça l'a accompagné, ça l'a construit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Gérard a horreur de la lecture. Alors, comment apprendre à aimer lire la Bible au quotidien quand la lecture n'est pas mon ami ? Quels sont les obstacles que nous pouvons rencontrer à la lecture pour avoir un temps de lecture quotidien ? si vous repassez ces quelques petites histoires fictives, mais qui, à mon avis, sont très proches de la réalité, il est probable que vous ayez accroché sur l'une de ces histoires. Finalement, quels seraient les obstacles? Il y en a probablement quatre et d'autres. Mais je crois que le principal obstacle à la lecture de la Bible quotidienne, c'est le manque de temps. Le manque de temps. Ce qui nous va nous poser des questions. J'y reviendrai tout à l'heure. Je n'ai pas le temps. Et même si nous avions le temps, je ne suis pas sûr que pour autant notre priorité irait à la lecture de la Bible. Le deuxième élément, c'est le manque d'amour de la lecture. Je n'aime pas lire, j'ai toujours été nul en français, je ne comprends pas ce que lis. Et lire la Bible, c'est compliqué. Et il y a quelque chose de vrai en cela. Tous les textes de la Bible ne sont pas faciles à lire. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Un autre obstacle, c'est un manque de méthode. C'est-à-dire, je suis prêt à prendre du temps, je suis même prêt à faire un effort parce que j'aime pas lire, mais après se pose l'autre question. C'est comment lire la Bible? Je ne sais pas comment m'y prendre pour lire la Bible. Je suis nul en théologie. Et dans le fond, je ne suis pas sûr que du coup, Dieu puisse me parler au travers de la lecture. Parce que j'ai aussi peur de mal comprendre ce que je lis. Et une autre raison, qui fait peut-être écho à la première, c'est le manque. Vous trouvez la suite, malgré l'arrêt. C'est le manque d'envie. C'est une réalité dans notre vie de croyant. À cela, on peut peut-être aussi ajouter des attentes que nous projetons sur ce temps que nous aimerions tous avoir de lecture pour la Bible. Si j'essaye de voir ce que j'attends dans tel moment, si j'essaye de juste d'analyser c'est quoi pour moi un temps de lecture biblique réussi. Hein, qu'est-ce que j'attends du tout de ce moment? Et du coup, de me poser les questions, mais est-ce que dans le fond, mes attentes, elles sont réalistes ou pas? Peut-être que j'attends aussi des choses irréalistes de ce temps de méditation quotidien de l'Écriture et qui me décourage. J'attends d'avoir une intense communion dès les premiers instants où j'ouvre la parole de Dieu, comme si je m'attendais à entendre une musique céleste, à ressentir Dieu qui est émotionnellement à mes côtés. Je ressens quelque chose de très intense, comme si j'étais dans la présence physique de Dieu. Si c'est ça mes attentes pour un temps de lecture quotidien de la Bible, je risque d'être déçu. Peut-être que je m'attends à être comme Moïse, vous vous souvenez, quand il est redescendu du mont Sinaï, quand Dieu lui a donné la loi, comment était-il? Son physique était transformé tellement il rayonnait de la gloire de Dieu, il devait même se protéger le visage. Si telles sont mes attentes, je risque d'être déçu dans la lecture de la parole de Dieu. En réalité, l'intimité et la proximité avec Dieu au travers de la lecture de la Bible se développe dans le temps et la régularité. En d'autres termes, plus je le fais, plus je vais aimer à le faire, et plus j'aime le faire, plus je vais connaître le Seigneur. Ce qui se passe à cet endroit équivaut à ce qui se passe dans l'amitié entre deux personnes. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un « Je veux devenir ton ami » pour de suite être dans la confiance et dans la confidence. Je garde toujours cette discussion que j'ai eue avec il y a peut-être un an en arrière avec un Américain qui s'est installé en France et qui commençait à voir les différences culturelles, notamment sur le plan des relations entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, vous pouvez demander à quelqu'un, après l'avoir rencontré autour d'un apéritif ou chez des amis, hein, au bout de la soirée, de lui demander à devenir « Veux-tu devenir mon ami ?» Et je devais lui expliquer que dans la culture française, aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas pour lui dire « Veux-tu devenir mon ami ?» Ça allait plutôt créer de la distance. Elle dirait « Mais t'es qui, toi ?» Et que c'était le temps qui était nécessaire. C'est en se fréquentant qu'on apprend à s'apprécier et que la confiance s'installe. Il en est de même avec notre proximité avec Dieu. Lire la parole de Dieu développe dans la durée l'intimité avec le Seigneur. Peut-être que vous marchez depuis des années avec Dieu, mais vous n'avez pas, pour différentes raisons, installé ou réussir à construire cette bonne habitude de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Peut-être vous l'avez connue à certaines périodes de la vie et moins à d'autres. La bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend et que cela se construit et qu'il n'est jamais trop tard pour prendre cette bonne habitude, c'est-à-dire saisir ce moyen de grâce par lequel Dieu veut nous bénir. Je vais juste voir la suite de mon PowerPoint. Alors, comment se préparer à la lecture? N'oubliez pas que lire la Bible tous les jours, c'est comme pratiquer une discipline sportive. Plus on en fait, plus on aura envie d'en faire. Et si vous écoutez des sportifs qui font régulièrement du sport 3-4 fois par semaine, ils vous diront que s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui se passe? Ça leur manque. Et c'est pareil dans la communion avec le Seigneur. Si je ne le fais pas, cela me manque. Comment se préparer pour un temps de lecture? N'oubliez pas non plus que c'est du temps que l'on donne à Dieu. Les offrandes que nous pouvons offrir à Dieu, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi le temps que l'on décide de sanctuariser, le temps que l'on décide de prendre dans des agendas bien remplis pour lui offrir. C'est du temps que nous prenons pour aller vers lui, pour le visiter. Et ce temps, il nous faut le chercher là où il se trouve. Alors, combien de temps à consacrer par jour pour la lecture de la Bible? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel serait un temps raisonnable? Qu'est-ce qui serait compatible avec vos habitudes? Je dirais ni trop peu, ni trop. C'est un bon référentiel. Si vous voulez prendre cette habitude, faites le parallèle avec courir un marathon. Voilà, vous n'avez plus fait de sport depuis 10 ans, 15 ans, et vous envisagez de courir, quand cela sera de nouveau possible, le marathon de Paris. Ça, c'est un objectif. Alors, si vous attendez la veille pour acheter vos baskets et votre short, et puis de se dire « je vais le faire », l'échec est garanti, bien sûr. Et ça veut dire qu'entre aujourd'hui et ce marathon qui, je crois, est au mois de septembre chaque année, quand cela sera de nouveau possible, je vais me préparer. Et cette préparation va devoir se faire selon des étapes. C'est-à-dire que si je recommence à courir, il vaut mieux m'échauffer, faire peut-être 1, 2, 3 kilomètres le premier jour et puis rajouter quelques centaines de mètres de jour en jour. C'est quelque chose qui s'apprend et qui se construit. Et c'est pareil pour notre temps biblique. Si vous décidez de prendre de bonnes résolutions pour lire la Bible et que vous dites « ça sera une heure tous les jours », je vous garantis que vous ne tiendrez pas longtemps. Mais qu'il est peut-être bien de commencer par 20 minutes. Trouvez 20 minutes sur 24 heures. Ça devrait être réaliste. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez à votre manière de vivre et à de quoi est remplie vos journées. Donc il vaut mieux, comme pour apprendre à courir un marathon, commencez modestement, peut-être 20 minutes. Et je vous assure qu'à un moment, vous verrez que le temps tourne et que vous ne réalisez même pas que le temps tourne et que c'est un temps qui, dans la durée, va s'allonger. 20 minutes, c'est déjà une bonne habitude à prendre. Et il faut trouver quelque part dans la réalité de votre vie 20 ou 30 minutes. Voilà. Où est-ce que Jean-Louis, qui est ouvrier en 3x8, peut trouver dans son agenda 20 ou 30 minutes ? Sophie, qui est mère de famille avec des enfants en bas âge, où peut-elle trouver 20 ou 30 minutes ? Et je fais appel à tous les Quentins, tous les papas et époux, vous êtes probablement la solution au problème. Pourriez-vous prendre en charge les enfants pendant 30 minutes par jour ? C'est votre rôle de papa. Ça dégage du temps pour votre épouse. C'est bon pour vous et c'est bon pour votre épouse. Et je suis sûr que votre épouse prendra vite l'habitude de prendre 30 minutes pour elle tout seule, voire même une heure, voire même deux heures. Et puis pour Léonie qui est hyper active, il faut d'abord qu'elle, elle accepte de se poser. Se poser pendant une demi-heure. Et une fois que vous avez trouvé ce temps, il est où dans vos agendas ce temps ? Il faut encore vérifier qu'il soit propice à faire le silence dans sa tête. Il faut trouver un moment, mais il faut aussi trouver un lieu, et de préférence un lieu calme. Surtout pour faire silence en soi-même. Se poser dans le silence, couper tout ce qui peut perturber ce moment. Alors évidemment, c'est sans téléphone, pas d'ordinateur connecté, pas de télé, pas de distraction, pas de bouquin. Quand ces conditions ne sont pas réunies, c'est difficile d'avoir un temps de culte personnel. Probablement qu'il faut déjà les 5 minutes de silence. Si vous décidez de consacrer 20 minutes à votre culte personnel pour la lecture de la parole de Dieu, les 5 premières minutes, consacrez-les à faire le silence. On ne peut pas ouvrir de manière brutale la parole de Dieu. Ça y est, je me pose, j'ai une demi-heure chrono en main, je lance le chrono et j'ouvre ma parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais peut-être brancher un chrono avec votre téléphone que vous avez mis en mode avion et déclencher 5 minutes. 5 minutes pour ne penser à rien. Vous verrez que c'est très long. Mais vous verrez aussi qu'au bout de ces 5 minutes, vous serez disponible dans votre tête pour commencer à entendre ce que Dieu veut dire par sa parole. Tenez compte de vos capacités de concentration, tenez compte de qui vous êtes. Et ne faites pas comme moi. Moi, j'ai grandi avec l'idée, le concept que la méditation de l'Écriture devait se faire le matin. C'était la première chose à faire quand on se lève. Mais personnellement, je suis inapte à toute vie sociale avant 7 heures, avant une douche et avant un café. Je suis un zombie, je n'existe pas, même si je suis debout et marche. Le matin, j'ai besoin de ça. Sinon, je suis incapable de penser. Et évidemment, quand j'ai pratiqué mon culte personnel après m'être levé, qu'est-ce que je faisais ? Je m'endormais jusqu'à ronfler. C'est pas le but. Quand j'étais étudiant, j'avais du temps le soir. Et je me souviens que quand j'étais de mes années de lycée, elles étaient ponctuées tous les soirs par un temps de 19h à 20h. Une heure où j'apprenais la guitare, du coup je chantais, où je priais et je lisais la Bible. Je n'avais aucune contrainte, c'est facile à cet âge-là. Mais non, en fait c'est pas si facile, même à cet âge-là, de se trouver du temps. Et puis quand au début de notre vie de couple, avec Annick, on est rentré dans l'idée que le temps de méditation de l'écriture, le culte personnel, était quelque chose que nous allions partager à deux. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'il fallait mieux que chacun le fasse de son côté parce qu'on avait des habitudes très différentes. Nous avons appris à terminer notre culte personnel, à le terminer par un temps de prière commune. Donc il faut aussi trouver dans le couple cet équilibre. Et puis quand j'étais dans la vie professionnelle, que je voyageais beaucoup, j'étais en vadrouille en Europe au moins une ou deux journées par semaine, si ce n'était pas à travers le monde. Ben oui, quand je prenais le premier avion à 6h20 à Strasbourg et que je rentrais avec le dernier avion et qu'il était 23h chez moi, où trouver ce temps ? C'était un autre défi. Il fallait de nouveau réadapter le temps de culte personnel à ces nouvelles circonstances de vie. Mais quand nous étions jeunes parents, Annick vous dira que c'était une période où elle était en apnée sur le plan spirituel. À cause des enfants en bas âge, la fatigue. Le soir, quand nos enfants étaient couchés à 19h30, mais on avait l'impression d'avoir mené une bataille et gagné la guerre. Et on était lessivés, on n'avait même plus envie de se parler tous les deux. Chacun n'avait qu'une envie, se reposer. Puis quand les enfants grandissent, on rentre encore une fois dans une autre phase qui offre d'autres possibilités pour le culte personnel. Donc, on ne règle jamais cette question une fois pour toutes. Mais ça demande de l'aménagement au fil de l'existence, selon nos circonstances. Pas toujours les mêmes conditions, pas toujours la même manière de lire la parole de Dieu. Enfin, troisième règle d'or, demander l'aide au Seigneur. Que le Seigneur vienne à notre secours. Parce qu'en réalité, nous faisons le constat de nos limites, n'est-ce pas, pour trouver ce temps. J'aimerais terminer par encore... dire quelle heure il est. 11h34. On est sur la bonne voie pour terminer. Comment lire maintenant et méditer la parole de Dieu? Vous avez compris comment trouver un temps, comment le mettre à côté. Et maintenant, vous dites, je suis face à ce livre, j'aimerais bien le lire puisqu'on me dit que c'est la parole de Dieu, puisqu'on me dit que Dieu parle. Mais je commence par quoi? Je fais comment? Sachant que j'aime pas lire, etc., etc. Je vous propose 6 questions à vous poser quand vous lisez un texte. Déjà, la Bible a différents styles. Vous vous souvenez-vous, c'est un recueil de poèmes, un recueil de récits historiques, il y a des biographies, vous avez des récits historiques, vous avez des textes narratifs, vous avez des écrits de sagesse, vous avez des traités de théologie, vous avez du genre prophétique, vous avez du genre apocalyptique. En fait, vous en avez pour tous les goûts. Et ces livres ne se lisent pas de la même manière. Certains livres sont plus difficiles que d'autres. C'est une réalité dans la lecture de la Bible. Donc, il faut donc prendre en compte le style. Un prophète ne se lit pas de la même manière qu'un psaume ou qu'un évangile. Ça ne va pas forcément mobiliser les mêmes efforts intellectuels quand vous lisez Romains, qui est compliqué à lire, que, par exemple, le livre d'Esther, qui est une histoire d'une jeune fille qui va devenir princesse. Mais dans tous ces textes, et je vous encourage d'aller vers ceux qui sont les plus faciles pour vous, dans un premier temps, les évangiles, la biographie de Jésus, c'est simple. Dans l'Ancien Testament, 1 de Samuel, l'histoire du peuple de Samuel, 1 de Rois, c'est simple. Et quand vous lisez ces textes, il y a peut-être 6 questions qui peuvent nous aider. Les 4 premières sont tirées des 7 signes de Jean. Vous vous souvenez, quand on a fait les 7 signes de Jean, il y avait 4 questions. Qu'est-ce que ce texte me dit de Dieu? Ensuite, qu'est-ce qui me dit de l'homme? Qu'est-ce que ce texte me dit de moi? Alors, dans tous les textes, il n'y aura pas forcément quelque chose à dire sur Dieu, sur moi. Il y aura peut-être quelque chose à dire sur qu'est-ce que ce texte m'enseigne, sur la foi. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que je viens de lire? Et comment cet exemple, ce récit, interfère ou me parle ou me rejoint dans ma vie? Je peux aussi me poser la question, est-ce qu'il y a une promesse dans ce texte, quelque chose que Dieu dit? Jésus a dit que mes paroles, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Nous vivons dans un monde tellement perturbé. À qui se vouer? Jésus a dit mes paroles, le ciel et la terre passeront, ça veut dire que voilà, c'est réalité, la stabilité ne se trouve pas dans les événements du monde. Jésus a dit, ma parole ne passera pas. C'est-à-dire, quelle que soit l'histoire dans le monde, ce qu'on est en train de vivre, la parole de Dieu demeure. Donc les promesses de Dieu ne sont pas dépendantes des circonstances, elles sont dépendantes de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, cela a encore été dit dans des prières ce matin. Les promesses de l'Écriture, je peux les prendre pour moi et m'appuyer sur elles. Est-ce qu'il y a dans ce texte une promesse? Et enfin, est-ce que je peux appliquer ce texte aujourd'hui dans ma vie? Peut-être pas forcément tous les jours, il y aura quelque chose à appliquer, mais si au fil du temps, dans cet exercice répété de jour en jour, que va se construire, que l'identité de Dieu va se clarifier, que je vais commencer à le fréquenter et qu'il va me parler comme dans une amitié relationnelle. J'aimerais juste encore dire quelques mots sur une autre méthode qui s'appelle la méthode Coca. Alors, c'est plus un processus que des étapes, ça va peut-être plus correspondre à d'autres personnes qu'à... Voilà. La première, c'est que j'analyse le contexte. Alors, le premier C de contexte du texte. Alors, quel est le genre de livre? Quelle est la situation? La deuxième est de l'observation. J'observe le texte. Les littéraires sont assez sensibles à cette démarche. Quels sont les personnages? Quelles sont les idées? Comment le texte est construit? D'accord? À partir du premier C, le contexte. Deux, observation. Trois, c'est qu'est-ce que je comprends? Parce qu'une observation va déboucher sur une compréhension. J'observe quelque chose, je comprends la chose. Et le troisième, c'est l'application. Comment est-ce que j'applique cela à ma vie? Alors c'est simple, hein, coca, ça vous fait penser à du coca, évidemment. Et donc, retenez ces trois C. C'est une autre manière, elle est plus conceptuelle. Elle est peut-être plus, pour ceux qui ont la fibre littéraire, sera plus sensible. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi un certain nombre de livres. Alors je vous en ai montré trois. Pourquoi et comment lire la Bible? Je ne vois plus qui est l'auteur de Alfred Kuhn. Il est très simple. Donc ça, c'est vraiment des ouvrages pour encourager à la lecture de la Bible. Et quel est l'intérêt, le profit qu'on peut tirer d'une lecture biblique? Vous en avez un autre. Quand lire la Bible m'ennuie. Et ça, c'est Jonathan Hanley qui s'adresse à ceux qui ont des difficultés à justement entrer dans cette lecture de l'Écriture. Et puis, il y a une méditation de Dominique Anger. La méditation biblique à l'ère du numérique. Et il développe aussi les outils numériques, parce que la Bible n'existe pas seulement en support papier, mais existe aussi de manière numérique. Vous avez aussi des petites applications que vous pouvez télécharger, qui sont bienfaisantes pour nous stimuler dans la lecture. Je termine par encore trois ouvrages qui sont des méditations au quotidien, avec un texte biblique à lire, qui est « Le Dieu qui est là » de Carson, « Le Dieu qui se dévoile ». En fait, c'est trois ouvrages d'un même auteur, qui est un théologien, où vous avez des méditations sur 365 jours. Et vous avez aussi tout le matériel de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je vous invite à aller sur ligue.net et vous trouvez le guide pour une lecture quotidienne de la Bible avec un petit commentaire pour les adultes. C'est modeste, mais ça installe l'habitude. Alors je termine en disant que les grands changements sont plutôt rares, c'est-à-dire que vous ne lisez pas votre Bible aujourd'hui, mais vous avez décidé que demain vous allez y consacrer 2 heures par jour. De tels changements sont plutôt rares, parce que la marche à franchir est tellement haute. Surtout l'âge avançant, alors je m'intègre volontiers, plus on avance en âge, plus on a des habitudes, plus changer les habitudes devient complet. Mais c'est en faisant des petits pas, en faisant des petits pas, des petits commencements modestes qui s'installent dans la durée, c'est souvent en regardant en arrière dans nos vies que nous réalisons du coup tout le chemin qui a été parcouru. Et c'est probablement aussi vrai dans l'apprentissage de cette lecture nécessaire au quotidien de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu sans jamais parler à notre Seigneur, sans jamais l'écouter. Et c'est en ces petits commencements modestes qui, quand on les ajoute au fil des jours, nous font réaliser à partir d'un moment qu'en fait, nous avons fait du chemin et que nous avons grandi. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite et que cela puisse être une bénédiction. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est un moyen de grâce? Peut-être juste terminer par la définition du moyen de grâce. Ce sont toutes ces activités que Dieu utilise au sein de la communauté de l'Église pour donner davantage de grâce aux hommes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu avec foi et obéissance, alors le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre cœur. Amen. Je vous invite à prier et peut-être à demander l'aide du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons encore te remercier parce que tu nous as donné cette parole. Elle a été traduite. Merci pour toutes les traductions qui existent. Merci pour la traduction française. Merci parce que ce texte, il est venu jusqu'à nous. Il est même là en BD. Il est là dans différents niveaux de langage français. Nous voulons vraiment te remercier pour la manière dont tu as veillé sur ta parole au travers des siècles, avec tous ces moines copistes qui l'ont copié avec tellement de soin. Et nous te disons merci. Et Seigneur, apprends-nous à nous mettre au bénéfice de ces grâces que tu veux nous donner quand nous ouvrons ta parole pour la méditer. Je te prie pour mes frères et sœurs ici, que ensemble nous puissions aussi nous encourager mutuellement à faire ce chemin, à ouvrir quotidiennement ta parole pour la méditer et se laisser nourrir par elle, se laisser encourager, se laisser porter, se laisser reprendre, se laisser aussi apprendre aussi à la connaître et à te connaître. Seigneur, sans ton aide, sans l'œuvre de ton Saint-Esprit, nous savons que nous ne pouvons pas y arriver. Alors nous te prions, viens à notre secours, dès demain, dès aujourd'hui, dans ce temps à trouver, pour te l'offrir et être dans cette communion avec toi. Nous te demandons cela en ton nom, Jésus. Amen.